Bonsoir Alexis, bonsoir Denis.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Alexis, bonsoir Roger.
Alors, émission spéciale Fédération française de 2013, puisque nous avons l'honneur d'avoir au téléphone M. Dominique Barlou, président de la Fédération. Bonjour Président.
Bonsoir Roger, bonsoir à tous.
Bonsoir M. le Président.
On va remettre à la torture un petit peu aujourd'hui, on va vous faire un peu des méchancetés, vous allez voir.
Allez, d'accord.
Voilà. Alors Président, nous allons commencer de suite par un problème qui nous tient à cœur, c'est le devenir de l'élite 1, parce que c'est vrai que l'ICLUB c'est un peu justette. Alors, que prévoit la Fédération française de rugby à 13 pour étouffer ce championnat élite 1?
Alors, mais, la réflexion que nous menons en ce moment, c'est évidemment de densifier ce championnat d'élite 1 en amenant le plus rapidement possible le nombre d'équipes à 12. C'est ce que nous souhaitons. Nous allons baptiser ce championnat pour la prochaine saison top 13 pour avoir une nouvelle dynamique en termes de marketing, en termes de production et de diffusion télé, et nous allons progressivement, comme je le disais, ramener le nombre d'équipes à 12. Alors, le champion élite 2, normalement, devra monter l'année prochaine. Nous avons déjà commencé à travailler avec...
Même si c'est un petit club.
Mais je ne sais pas s'il y a des petits clubs qui sont en passe d'être... comment dire ça, aujourd'hui, qui est invaincu en Élite 2 et qui est en passe, normalement, d'aller au bout, en tout cas d'aller à la finale, pour que son dossier puisse être admis en Élite 1. Je parle de Villefranche-Rouergue.
Oui, j'ai bien compris. Voilà. Mais supposons que ce soit Villers-Aragon, par exemple, qui devient champion de France. Est-ce que vous croyez qu'ils ont les structures pour monter en Élite 1?
Alors, j'ai pas entendu le club dont vous parliez. On parle bien
de... supposons que ce soit Villers-Aragon qui soit champion de France. Est-ce que vous croyez que ce club de village est la structure nécessaire pour un club d'élite 1?
Voilà, je ne le pense pas. Mais en même temps, ils ne sont pas candidats. Ils n'ont pas candidaté auprès de la fédération, alors que Villefranche l'a fait depuis déjà un moment. Nous avons rencontré les élus à Véronée, qui sont au conseil régional, au conseil départemental. Nous avons rencontré les élus de la mairie de Villefranche-de-Rouergue et les dirigeants du club. Nous avons fait déjà deux réunions collectives et les élus, les institutions souhaitent ardemment que Villefranche-de-Rouergue rejoigne l'élite du rugby à 13 français. Non seulement la rejoignent, mais puissent s'y maintenir. Donc, ils ont tous décidé de mettre les moyens pour permettre cette ascension au club Rouerga. Donc, si vous voulez, c'est une façon de travailler qui anticipe les choses. Si Villefranche n'était pas champion, eh bien, malgré tout, le dossier d'accession pourrait être validé. Donc,
Président.
Oui.
Président, il a été dit que ça serait le club champion de France d'élite 2 qui monterait en élite 1.
Oui, mais il a été dit aussi qu'à défaut, si ce club-là n'avait pas les structures pour monter, le club finaliste pourrait le faire. Voilà, d'accord. Nous avons laissé ouverte l'accession sur dossier.
D'accord, voilà, là c'est clair et net.
Voilà.
Alors Président, bon là ça ferait 11 clubs.
Oui.
Qui voyez-vous dans quelques années, peut-être l'année prochaine, dans quelques années, qui voyez-vous monter en élite 2? Parce que quand on voit, bon, honnêtement, Toulouse Olympique et Saint-Étienne de Catalan, bon, s'il pouvait y avoir des équipes comme Villefranche-Rouergue, comme Villeneuve-sur-Lot ou Avignon, ça serait bien.
Oui, bien sûr, mais je pense que Saint-Étienne, par exemple, fait une excellente saison cette année. Villeneuve, c'est un peu plus compliqué. J'espère que l'on va pouvoir travailler, continuer de travailler avec le club de Villeneuve-sur-Lot, qui a été, qui a traversé une période compliquée, qui refait surface petit à petit, dont la mairie, là aussi, que nous avons rencontré, et on a la chance d'avoir Michel Laville, hein, vous vous souvenez, l'ancien joueur de Villeneuve, qui était élu au sport en ce moment à la municipalité villeneuvoise, qui s'engage là aussi derrière le club. Ils ont un grand projet de restructuration du stade Max-Rousier avec un redimensionnement de la tribune, etc. Donc, il y a une énergie qui se remet en place parce que tout le monde pense effectivement qu'il faut redonner du corps à cette éditeur avec un nombre supérieur de clubs. Alors, pour répondre directement à votre question, aujourd'hui, je ne peux pas dire quel est le club d'élite 2 qui sera le prochain candidat à la montée après Villefranche-de-Rouergue. Moi, j'ai une petite idée pour avoir, on va dire, une répartition territoriale un peu plus harmonieuse, mais voilà, pour le moment, je ne peux pas dire autre chose. Il faudra que les clubs déclarent une intention, mettent en conformité leur structure avec cette intention, et puis surtout, ils aient un rendement sportif, pardonnez-moi le terme, il n'est pas très beau, mais qu'ils aient un rendement sportif qui soit à la hauteur aussi de cette ambition. Donc, là, pour le moment, on va se satisfaire de 11 clubs l'année prochaine avec la montée d'un club d'élite 2. J'espère que ce sera Villefranche-Rouergue qui est candidat. Je n'en connais pas d'autres. Puis, nous travaillerons avec un autre club tout au long de la saison prochaine pour l'accompagner à la structuration, etc. Mais nous en parlerons quand même avant la fin de la saison avec l'ensemble des clubs d'élite 2 pour voir qui pourrait être ce candidat. Voilà ce que l'on peut dire.
Alors, Président, il y a deux clubs, nos regards se tournent vers de nouveaux clubs, Toulon et Nice.
Oui.
Quel potentiel peut-il avoir avec ces deux clubs ? Ça serait bien, Toulon et Nice.
Ah, je confirme que ça serait très bien, évidemment. Ça va dans le sens de du développement territorial auquel je faisais allusion à l'instant. Pour le moment, ces clubs sont en National 3 et National 2, donc il faut leur laisser du temps, il faut qu'ils puissent se structurer, mais incontestablement, ce sont des cibles pour la Fédération française de rugby à 13 parce que c'est une extension territoriale qui est nécessaire aujourd'hui.
Oui, et qu'est-ce qu'il en est de Lyon ? Je sais que du côté de Lyon, il y a pas mal de petites écoles de rugby qui sont construites. Où en est-on au niveau de Lyon ?
Écoutez, je vais vous en parler très... très facilement, puisque j'étais à Lyon la semaine dernière, j'y ai passé 3 jours pour faire le point, là aussi, avec le territoire, ce territoire rhône-alpin, parce que ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui au Grand Lyon, c'est le haut niveau, l'éclosion au haut niveau. Nous n'avons plus d'équipe de haut niveau. Quand je dis haut niveau, c'est le meilleur niveau possible, hein, entendons-nous bien. Le haut niveau, il viendra ensuite. Mais nous n'avons pas d'équipe senior aujourd'hui, à part le FC Lyon, mais qui là aussi est en National 2, si je ne me trompe pas. Donc, à part le FC Lyon, il n'y a plus d'équipe. Donc, l'enjeu, c'est de reconstruire du haut niveau à Lyon. Alors, j'ai rencontré les dirigeants des clubs de Décines, du FC Lyon, de Caluire, de Sainte-Foy-lès-Lyon. Et ce qui se profile, c'est une convergence de tous les talents vers une structure unique de haut niveau. C'est-à-dire que tous ces clubs constitueraient la base d'une pyramide dont le sommet serait une entité nouvelle à Lyon. Alors nouvelle ou peut-être adossée à un club qui existe déjà, mais en tout cas, que tous les talents convergent vers cette entité. Et j'ai rencontré pour cela le vice-président de Lyon Métropole, avec lequel j'ai abordé ce problème parce que il se réjouissait du travail qui était accompli en termes de formation, puisqu'on connaît l'excellence de la formation lyonnaise, et il se réjouissait également du travail qui était fait en termes de Silver 13 Équilibre, par exemple. C'est une grosse branche qui se développe, là aussi, que Jacques Cabezan, le président de la Ligue, mène, qui se félicite aussi de l'activité fauteuil. Mais je lui ai dit, vous savez, monsieur le vice-président, le président que je suis, attend avec impatience l'éclosion de tous ces talents au plus haut niveau. Et donc, il nous faut un terrain qui puisse mutualiser toutes ces ressources. Or, aujourd'hui, à Lyon, le constat est celui de la carence d'équipements sportifs. Donc, nous avons évoqué un projet qu'il porte aujourd'hui d'un stade nouveau de 12 000 places qui pourrait être dédié au rugby à 13 de haut niveau. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur le lien. Et il me semble que c'est une avancée qui n'est pas négligeable et qui, en tout cas, permet à tous ces clubs de se projeter sur, on va dire, peut-être trois saisons pour avoir une équipe qui pourrait prétendre, à un moment donné, à rejoindre l'élite 2, puis, à terme, l'élite 1. Voilà pour le secteur 9.
Alors, il y a un autre club, pardon, une autre région qui nous intéresse, c'est Nantes.
Oui.
Nantes, il y a des très Nantes. Alors, avez-vous travaillé sur Nantes? Que devient Nantes? Après, il y a notre ville, on en reparlera. D'abord, que devient Nantes?
Alors, d'abord, je voudrais vous dire que les Nantais se portent bien. Le comité de Loire-Atlantique, qui est présidé par Jimmy Leduc, fait du très, très bon travail. Bien sûr, aujourd'hui, les équipes seniors sont plutôt tournées vers le rugby à 9, parce qu'on connaît la problématique. Il y a pas là, pour le moment, de nombre suffisant d'équipes pour faire un championnat local. Ils ont des déplacements monstrueux pour pouvoir jouer. Le plus près, c'est Paris. Encore que c'est compliqué d'aller jouer à Corbeil, à Nanterre ou à Charenton-Châtillon. Bon, c'est compliqué. Donc, ils font plutôt du rugby à neuf parce que ça permet d'avoir avantage d'équipe. Mais je veux dire quand même qu'il n'y a pas que le rugby à 13 tel qu'on le connaît sur grand terrain. Il se développe, il y a des écoles de rugby, il y a des sections para-rugby 13, Fauteuil, il y a le comité de Mayenne qui vient de... pas de Mayenne, pardon, de la Manche, qui vient de voir le jour, avec notre ami Guillaume Luciano, qui est un trésiste du Sud, qui a rejoint la Normandie il y a déjà quelques années, qui avait développé Saint-Poix, et qui maintenant est dans le Cotentin. Il y a Léomar du Cotentin à Cherbourg, il y a... Voilà, ça se développe. Il y a de plus en plus de licenciés dans le Grand Ouest, mais effectivement, il n'y a pas encore d'équipe senior qui pourrait intégrer un des championnats, soit de National 1, soit d'Élite 2. Mais quand même, c'est en devenir, c'est en construction. Ce qu'il faut faire là, c'est permettre d'avoir, de retrouver des clubs, par exemple en Gironde, qui permettraient d'avoir là aussi un arc atlantique un peu plus accessible. Mais voilà, il faut y travailler, il faut accompagner les clubs, c'est pas aisé. Voilà
ce qu'on peut. Alors, mais Bordeaux-Bègles.
Oui.
Où en est Bordeaux-Bègles?
Alors, vous savez que moi je suis un enfant de la Réole. J'ai été élevé au rugby à 13 à la Réole. Aujourd'hui, je me morfonds de voir que la Réole a été obligée de faire une alliance avec Bordeaux-Bègles pour pouvoir participer au championnat. C'est un crève-cœur. Ce sont des territoires qui s'isolent de plus en plus et c'est très difficile à accompagner. En tout cas, il n'y a pas de génération. Tous les efforts que nous menons avec eux pour pénétrer le milieu scolaire, pour faire des écoles de rugby, des équipes de quartier, puisque c'est l'enjeu à Bordeaux, de redévelopper tout cela pour avoir à terme des équipes qui se reconstituent. Il faut du temps. Je voudrais aussi là vous livrer ce qu'est la réalité de Bordeaux. Je pense que tout le monde connaît le fameux Bordeaux Étudiant Club, le BEC, qui avait des terrains, qui avait une dizaine de terrains qui se tenaient du côté de Talence. Eh bien, ces terrains ont été récupérés par l'Université de Bordeaux pour faire des logements étudiants. Il n'y a plus de terrain pour le Bordeaux Étudiant Club. C'est un drame absolu. C'est un drame absolu dans ces grandes villes que les espaces soient dédiés à autre chose. Alors, bien sûr, il faut héberger notre jeunesse étudiantine. Mais quand même, le sport ne peut pas être la variable d'ajustement. Alors, ça fait l'objet de discussions avec les élus. Nous avons d'excellentes relations avec le conseil départemental de la Gironde. Mais ils ne peuvent pas tout seuls. Et donc, il faut être patient. Il faut travailler avec les clubs. Il faut refaire du maillage territorial. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir.
Mais à Bègles, il y a un beau terrain quand même, à Bègles.
Oui, il y a un terrain à Bègles. Oui, bien sûr. Mais Bègles tout seul, il sait quoi, il joue comment. C'est ça le problème. Moi, je voudrais qu'il y ait
Bordeaux-Bègles.
Un club à Bègles, mais qu'il y en ait un autre à Pétac, comme ça a existé. Qu'il y en ait un autre à Talence, comme ça a existé. Que la Réole retrouve du plein exercice. Qu'il y en ait, par exemple, à Duras. que dans 60 km, il y ait 4 ou 5 équipes qui puissent se rencontrer. C'est ça qui fait la force des autres sports et que nous avons perdu en rugby à 5. Nous avons passé des années à regarder partir des clubs sans apporter de solution et aujourd'hui, nous le payons cash. Voilà ce que c'est.
Alors, il y a une autre ville qui nous intéresse aussi, qui doit intéresser, je pense, la fédération, c'est la ville de Paris.
Oui.
Alors, à l'époque, oui. Il y avait Paris-Châtillon en élite. Mais alors, qu'en est-il du rugby à 13 sur Paris ?
Roger, moi, j'ai connu Paris, l'Île-de-France avait 14 clubs.
Eh oui, moi,
Bois d'Arcy, Châtillon, ici, enfin, il y en avait, y a Charenton, il y en avait 14 clubs. Il n'y en a plus que 5 aujourd'hui. Il y en a plus que 5, et sur 5, il y a 3 équipes seniors. Les Parisiens, c'est lorsque nous avons fait la réunion avec le DTN, le vice-président Patrick Pedrazani et puis moi à Paris il y a une quinzaine de jours, justement pour faire le point, nous avons fait le décompte des licenciés. Aujourd'hui Paris, c'est 208 licenciés. C'est ridicule. Comment on peut en être là ? Alors, mais tout s'explique, hein, y a une raison à tout. D'abord, vous comprenez bien qu'à Paris, pour aller de Corbeil à Nanterre, il faut 2 heures. Même si c'est pas 1 kilomètre très éloigné, il faut 2 heures. Donc, un cadre technique est chargé de faire du développement. Il faut qu'il trimballe ses boucliers, ses sacs de plaquage, ses maillots, ses ballons. Soit il y va en voiture, il met 2 heures. Soit s'il veut gagner 1 heure, il y va en métro, mais il lui faut un bataillon de porteurs pour amener son matériel. Donc, c'est pas simple. Le problème majeur que l'on rencontre à Paris comme dans d'autres endroits, mais surtout à Paris, c'est qu'on ne recense plus de dirigeants capables de porter un projet. Voilà. C'est pas le potentiel en population, il y est. C'est pas la capacité à aller dans les écoles, on y va. On a des garçons qui sont formés pour ça et qui peuvent intervenir. C'est de recenser des dirigeants capables de porter un projet. Alors c'est là aussi compliqué, il faut prendre le temps de le faire, nous y travaillons, mais c'est un crève-cœur que de voir Paris être réduit comme ça à peau de chagrin depuis quelques années. Voilà. C'est vraiment un enjeu là aussi très fort pour notre fédération.
À l'époque, il y avait Corbeil en élite 2.
Oui, bien sûr. Bien sûr que oui.
Là, il y a un potentiel là, ce Corbeil.
Bien sûr que oui. Aujourd'hui, ce que nous disent les dirigeants de Paris, c'est autorisez-nous une année, une saison ou deux à ne pas jouer dans le championnat français, mais à rencontrer des équipes anglaises de la ceinture londonienne. Parce que nous ne sommes finalement qu'à 2 heures de Londres, alors que nous sommes à 5 heures de Cheval Blanc, par exemple, pour aller y jouer.
Oui.
Voilà, donc je peux entendre un certain nombre de choses. Peut-être qu'il va falloir passer par cette singularité, par cette exception, pour pouvoir remettre de la dynamique, refaire parler de rugby à 13 à Paris. C'est pas un problème d'argent. Ils ont des revenus. Vous savez bien, la politique de la ville est largement financée, donc ils ont tout un tas d'atouts dans ces secteurs-là. C'est pas tant ça le problème. Le problème, encore une fois, c'est d'avoir des dirigeants capables de porter des projets et de les faire aboutir. Voilà. C'est la complexité de notre situation en Île-de-France.
Alors, avec moi, il y a Denis Arcade. Denis.
Oui, président. On vient de faire là un petit tour de France, de certaines grandes villes. C'est sans être pessimiste, pour l'instant, on voit pas grand chose se dessiner. Concernant le top 13, la possibilité d'arriver à 11, la possibilité de faire monter Villefranche de Rouergue, c'est une bonne nouvelle. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose qui se dessine. Je sais bien que vous n'êtes pas responsable de la situation, mais votre mandat, si je ne me trompe pas, avec l'ensemble de votre équipe, se finit dans 1 an. Quelle est la perspective que vous tracez pour en revenir à ce top 13 ? Sinon, revenir à ce que... avoir un championnat à 11 équipes qui ressemble un peu à ce qu'il était il y a 15 ans, est-ce que vous pensez que le rugby à 13 va s'en sortir, le rugby à 13 au niveau de son élite française, hein, puisqu'on ne parle pas des deux clubs professionnels?
Oui, bien évidemment. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut être patient et avoir une activité qui génère une évolution à cliquer, c'est-à-dire qu'on soit capable de créer des conditions pérennes d'accès au haut niveau de quelques clubs. Alors moi, je sais que je regarde l'élite 2, il y a là-dedans des villes qui, aujourd'hui, ont des clubs qui n'obtiennent pas de bons résultats, mais qui sont quand même des villes solides. Je parle, par exemple, de Salon de Provence, qui pourrait être un candidat...
Oui, Carpentras.
Carpentras. Mais Carpentras, c'est dans le Vaucluse. Salon de Provence, c'est ce qui est intéressant, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Ça fait, si vous voulez, un département de plus qui est représenté. Mais pourquoi je dis Salon ? Parce que nous avons une mairie, une municipalité qui est très attachée au rugby à 13, qui a souhaité absolument maintenir le pôle espoir, alors qu'il y avait des difficultés en termes d'hébergement, hein, puisque le lycée ne suffisait pas, les jeunes étaient hébergés dans une structure privée qui a été démobilisée. Et donc, nous avons refait avec la mairie le projet pour la rentrée prochaine. La mairie est vraiment un partenaire essentiel du rugby à 13 à Salon. On pourrait imaginer mettre une pièce sur le Salon de Provence s'il y a une convergence économique, institutionnelle et que le club continue à travailler, parce que Salon de Provence, c'est l'équipe qui fait éclore les talents qui sont formés à Grasse, à Barbantane. On en a un aujourd'hui, Enzo Griffier, qui a un contrat avec les moins de 21 au Sydney Rooster. C'est pas si mal que ça. Il a été formé à Grasse et à Salon de Provence. Donc, il y a ce qu'il faut, il y a de la matière. Mais encore une fois, il faut ordonner tout ça en projet, donner le temps de le mener pour arriver à ça. Alors, revenir à l'élite 1, moi je pense que si vous voulez, tant qu'on n'aura pas une élite 1 stable à 12 clubs, avec le dernier qui descend, le premier d'élite 2 qui monte, qui se prépare à monter chaque fois, quand on a la prétention d'élite en élite 2 d'être champion de France, ça veut dire qu'on se prépare à monter en élite 1. Ça veut dire qu'on met de l'enjeu sportif. Tant qu'on retrouvera pas ça, nous ne retrouverons pas de stabilité. Il est là l'enjeu, il est vraiment là l'enjeu. Donc nous y travaillons, nous n'y travaillons pas tout seuls, hein, parce que nous le faisons avec les présidents des clubs d'élite 1, on se rencontre régulièrement, on évoque cela régulièrement. De temps en temps, nous associons les présidents des clubs d'élite 2 pour leur faire toucher du doigt quel est l'impératif pour le rugby à 13 aujourd'hui. Et donc, notre politique fédérale, elle s'appuie là-dessus. Alors, pour en revenir à notre mandat, il se termine pas dans un an, il se termine dans quelques mois, puisqu'à l'automne 2024, il y aura des élections. Voilà, donc on est, si vous voulez, plutôt sur 6-7 mois que un an. Hein, voilà.
J'étais large, volontairement.
Oui, mais enfin, on sait que le mandat arrive à sa fin, hein, bien évidemment. J'avais compris, hein, Denis. Mais voilà, donc c'est l'axe majeur de notre mandat, là, c'était à la fois la croissance et la réinscription du rugby à 13 dans la culture sportive populaire. C'était les deux axes majeurs de ce mandat. Le premier, la croissance, nous y accédons, même si elle n'est pas vertigineuse. Elle est réelle. Les chiffres seront donnés à l'Assemblée du mois de juin. Et par contre, la réinscription du rugby à 13, le retour, je vais dire plutôt, du rugby à 13 dans la culture sportive populaire, ça ne peut pas se faire sans moyens. Il faut que nous trouvions les moyens, et nous les trouvons, et nous y employons au quotidien, pour par exemple bien diffuser, comme c'est le cas, depuis le mois de janvier, une rencontre par journée de championnat, tous les matchs internationaux, plus les demi-finales et les finales d'élite 1, plus l'élite féminine, la finale féminine, plus la finale du Para-Rugby 13. Tout ça sur 4 canaux de diffusion. Plus une série de 10 magazines que nous sommes en train de tourner, et d'ailleurs il y a eu un sujet qui a été tourné à Villegayenc, Aragon, sur les deux communes, avec l'interview des maires et la situation de rugby à 13 dans ce village, 10 magazines qui vont montrer comment notre rugby à 13 décline ses activités et comment ces activités sont vécues dans chaque territoire. Voilà, 10 magazines qui vont être diffusés sur TV5 Monde. Ça parle peut-être à TV5 Monde. Ils ont une partie éditoriale territoire. Ces magazines-là vont être sur cette chaîne. Voilà, 10 magazines. Tout ça, ça va permettre de réacculturer le grand public au rugby à 13. Parce que nous savons, nous qui sommes entraînistes, que c'est un sport merveilleux, qu'il est, allez, on va dire, facile à comprendre, même s'il a ses subtilités, évidemment. Mais il n'est pas comme d'autres sports où, même s'il y a beaucoup de spectateurs, il n'y en a pas la moitié qui comprennent les règles et qui se demandent toujours pourquoi on siffle. Nous, le nôtre, il est facile à comprendre. Il est facile à réaliser que les joueurs ont une performance physique individuelle à mettre au service de l'équipe. Et donc, c'est cet enjeu-là qu'il faut qu'il soit mené. Et pour qu'il soit mené correctement, il faut que les communes continuent de s'associer à son développement. Alors, vous savez ce que nous disent les maires quand on les rencontre. Ils nous disent, bon, les subventions telles qu'on les a connues jusqu'à présent, dont la plus grande partie servent à rémunérer les joueurs, ça ne va plus pouvoir durer. Mais par contre, nous, on peut faire un effort pour améliorer les infrastructures. Voilà. Donc, ben, moi, je me base là-dessus. Je me dis, par exemple, que le maire de Limoux, Pierre Durand, peut-être qu'il va préférer mettre 150 000 euros au stade de l'Aiguille pour avoir une capacité à refaire du confort de vestiaire, du confort de tribune, à avoir un plateau pour pouvoir mettre à la télévision les captations d'images, à avoir une pelouse en synthétique pour que on puisse jouer à n'importe quelle saison et qu'on repousse pas un match s'il pleut, etc., etc., etc. C'est dans cette dimension qu'il faut, je crois, que nous nous projetions si on veut avancer. Voilà.
Oui, mais attends, Roger, une seconde. Oui, j'avais une autre question. Il me semble que au début du mandat, vous n'étiez pas président, vous étiez vice-président. Vous étiez proche, vous étiez secrétaire général. On avait parlé d'un chemin vers certains professionnalismes en prenant toutes les précautions d'usage. Aujourd'hui, concernant l'élite 1, qu'est-ce qu'il en est, quelles sont les perspectives, parce que si c'est vrai que si demain il n'y a plus, les municipalités ne veulent plus que leurs subventions servent à payer les joueurs, je ne sais pas avec quoi joueront les clubs.
C'est ça. Alors, si on se professionnalise, ça sera le cas de toute façon, puisque le financement du sport professionnel, il n'incombe pas au territoire. Mais, je vais vous faire une confidence. Mon prédécesseur et ami, Luc, a été obligé de mettre fin à sa présidence pour des raisons de santé. On lui a foutu la paix pendant un moment pour qu'il se ressaisisse, qu'il regagne un capital santé. Mais pour autant, je ne l'ai pas lâché, je ne le lâche toujours pas, et je le rencontre régulièrement pour continuer à travailler sur ce dossier de la professionnalisation du rugby à 13. Et un groupe de travail est toujours en activité, avec des personnes qui ne sont pas des élus du rugby à 13, certaines le sont, mais d'autres ne le sont pas, et continue à réfléchir et à travailler à ce que devra être la structuration progressive de nos clubs pour verser dans le professionnalisme. Alors, être professionnel l'année prochaine pour un club d'élite, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire, comme je l'ai demandé il y a 2 ans à l'Assemblée Générale, c'est être capable, avant la fin de ce mandat, d'avoir un entraîneur professionnel et un cadre administratif professionnel. Ça peut vouloir dire l'année d'après, d'avoir un maximum, voire la totalité des contrats de pluriactivité. Ça peut vouloir dire, la troisième année, d'avoir la transformation de l'association loi 1901 en SASP ou en autre forme de structure juridique. C'est ça le chemin de professionnalisation. Il ne faut pas compter qu'on arrive l'année prochaine en disant à chaque club, voilà, vous avez chacun 2 millions d'euros pour démarrer la saison et on est des pros. C'est pas comme ça que ça peut se passer. Ça n'est pas la réalité, ça n'est pas le monde réel. Le monde réel, c'est de structurer progressivement notre club. Nous avons décidé, c'est pas vieux, c'est le 4 mars, à Carcassonne, avec les présidents d'élite, que pour démarrer la saison prochaine, nous allions travailler sur un contrat type que tous les clubs utiliseraient avec l'ensemble de leurs joueurs. Ça ne veut pas dire réguler le salaire des joueurs, c'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est d'avoir un contrat qui nous permette d'avoir les mêmes dispositions réglementaires et juridiques entre tous les clubs, tous les joueurs et la fédération. Je prends un exemple. Un joueur peut signer un contrat de 3 saisons avec Carcassonne. Si au bout de 2 saisons, il veut aller jouer à Villeneuve, eh bien, il faudra que Villeneuve et Carcassonne s'entendent. S'ils ne s'entendent pas, le joueur ne pourra pas jouer la 3e saison. Mais par contre, au bout de la 3e saison, il salue respectueusement les dirigeants de Carcassonne et il peut signer à Villeneuve. C'est ça, se professionnaliser, le chemin de professionnalisation. C'est par là qu'on arrivera à grandir, à faire évoluer nos structures pour attirer des partenaires du monde économique, pour renforcer les budgets des clubs. Aujourd'hui, vous savez, hein, à part deux clubs qui se détachent un peu en termes de structure et de budget, les autres, c'est plutôt un budget autour de 600 000 euros. C'est pas suffisant. Le professionnel, il faut au moins le tripler. Mais le triplé, les dirigeants de clubs qui mettent les mains dans le cambouis tous les jours, ils savent très bien que c'est pas possible d'une année sur l'autre, en l'état actuel des choses. Voilà, donc, nous réfléchissons, nous travaillons, nous allons progressivement amener les clubs à se structurer différemment pour avancer ensemble sur ce chemin de professionnalisation et surtout faire en sorte de ne laisser personne derrière, parce que c'est important. Si on se retrouve assis à un moment donné, ça n'aurait pas de sens. Voilà. Donc c'est une quête permanente, mais nous n'avons pas abandonné l'idée. Nous y travaillons, hein, nous avons de la suite dans les idées, mais sans brusquer des choses et en tout cas sans risquer de mettre davantage de désordre que d'avoir une progression ordonnée vers cette professionnalisation.
Voilà. Oui, nous profitons. Vous avez cité Luc Lacoste, nous profitons de le saluer. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais on l'a eu à plusieurs reprises cette antenne et on lui envoie tous nos vœux, évidemment, de saluer.
Je m'assurerai que ce salut
revienne. C'est sympathique. Oui, moi, je voulais, et je termine là une autre question. Est-ce que vous avez, là, par exemple, envisagé de pistes, un entraîneur professionnel, un cadre administratif professionnel? Est-ce que là-dessus, les clubs à vous suivre, puisque vous avez semblé fixer, dire par exemple, ça pourrait être la saison prochaine, cette première étape. Est-ce que ces étapes, vous sentez que les 11 clubs que vous allez avoir dans le Super 13, dans le Top 13, pardon. Là, j'ai du mal à dire top parce que ça me rappelle un autre rugby. Mais enfin, dans le Top 13, vous sentez qu'ils vous suivent là-dessus ou est-ce que certains vont, comme souvent, malheureusement, freiner un peu de 4 pieds?
Alors, il y en a qui sont déjà pas loin de cette réalité. Ça, il faut quand même qu'on le sache. C'est simplement une mise en conformité avec une bascule finalement pas si importante que ça. Alors oui, il y a des clubs pour lesquels la marche est encore haute et qu'il va falloir accompagner un peu plus, avec un peu plus de conviction. Mais évidemment, l'intérêt, c'est qu'on ait une capacité à un jour entrevoir un championnat professionnel qui ne serait pas en concurrence avec les autres championnats, qui pourrait se jouer soit sur une saison un peu décalée, soit sur un jour de semaine qui ne soit pas en concurrence, etc. Vous savez, c'est pas nouveau, hein, ça. Professionnalisation avant que le 15 passe pro en 95, quand Jacques Fourroux était venu en 94, il en était déjà question. Et même avant, je me souviens, moi, avoir appartenu à un comité directeur où le président Daniel Lambert avait déjà évoqué cela comme situation de survie du rugby à France. Donc, c'est pas nouveau, ce débat-là. On le sait très bien que c'est une volonté de tous, finalement. C'est une croyance, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est plutôt une conviction. Voilà, c'est plutôt la conviction que notre salut viendra par là, mais que la marche est pour certains est tellement haute encore aujourd'hui, ça paraît compliqué. pourquoi on n'imaginerait pas que aujourd'hui il y a 2-3 clubs qui en sont capables quasi immédiatement? Pourquoi on n'irait pas que ceux-là vont y passer la première année et que on se laisse cette année pour travailler avec les autres clubs pour qu'ils aient une année supplémentaire de structuration? Bon, c'est possible ça. À la sortie, pourquoi on ne démarrerait pas dans 3 ans, par exemple, un championnat professionnalisé avec 8 équipes seulement et une élite, à ce moment-là, il n'y aurait plus d'élite 2 ou quoi que ce soit, ça serait une élite qui soit renforcée avec plutôt 2 poules de 7, par exemple. C'est un schéma qui pourrait s'entendre et qui pourrait permettre à tout le monde de s'y retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avec tout ça, il faut qu'on se donne les moyens d'y arriver. Et les présidents de club sont conscients de ces enjeux. Ils travaillent avec nous. On avance. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas encore assez de proximité entre les présidents de club, parce que c'est ce qui fait la force dans d'autres sports. Moi, je rêverais d'un rugby à 13 où les dirigeants du club prennent le temps d'organiser un repas, certains le font, hein, d'organiser un repas avec les dirigeants de l'équipe qui se déplace, qu'on puisse échanger, qu'on puisse regarder les structures, que les entraîneurs valident ce que sont les marqueurs du haut niveau, dans notre élite, à l'international, etc., pour qu'il y ait une vraie dynamique collective qui s'installe. Alors, nous y travaillons, nous portons cette parole. Vous voyez, le 7, on va faire les demi-finales de Coupe de France lors derby à Marseille. Le matin, j'ai convoqué une réunion en invitant les présidents, les managers et les entraîneurs pour discuter de l'utilisation d'un logiciel d'analyse de match et de performance qui permet aussi d'avoir une diffusion de la rencontre sur les chaînes de YouTube des clubs en même temps, etc. Voilà. Donc il y a vraiment, on est là aujourd'hui à une période charnière qui pourrait amener une bascule vers un nouveau paradigme pour le rugby à 13. Voilà. En tout cas, notre sujet, c'est de s'entourer du maximum d'accords des clubs aujourd'hui d'élite 1 et de quelques-uns d'élite 2.
Repasse la main.
Merci, Denis. Alors, Président, moi, j'avais une petite idée. Elle vaut ce qu'elle vaut. C'est facile à dire, peut-être difficile à appliquer. Pourquoi des clubs comme Nice, Toulon, Salon et Carpentras, on leur autoriserait un nombre limité d'étrangers, par exemple Scapette, voyez, pour les renforcer, oui, pour avoir une base solide, et en enlever un par année. C'est-à-dire la première année, oui, cet étranger, la deuxième aussi, la troisième aussi. Ça permettrait à ces clubs d'avoir, en attendant, d'avoir des structures plus efficaces pour amener des jeunes, hein, qui montent là. Ça serait peut-être une solution pour donner une structure rugbyistique à ces clubs qui pourraient peut-être à ce moment-là mieux aborder l'élite 2 dans la préparation de la montée en élite 1, en suivant, c'est que par des joueurs d'une qualité quand même un peu supérieure ou égale aux grands joueurs français, de manière après à permettre, par exemple, on met 8 étrangers, voire 9. Et la première année 9, la deuxième année 8, est-ce que ce n'est pas une solution?
Alors, ça peut être effectivement une solution. Il n'y a pas de mauvaises idées dans la mesure où ça sert l'intérêt général, évidemment. Donc là, il faudrait que tous les clubs soient d'accord là-dessus, d'autant plus qu'il y aurait des répercussions quand même sur les règlements financiers, puisque vous savez qu'à partir du 4e étranger, la licence, hein, et le quadruple, je crois, hein, au niveau du président.
Oui, mais là, c'est là. Il va falloir faire des efforts, la fédération.
Oui, bien sûr que oui, je comprends bien. Mais c'est pas la fédération à faire des efforts. La fédération, elle peut légiférer et changer les lois. C'est pas très grave, ça. Ce qui est important, c'est de pas, comment dire ça, créer, autoritairement, je vais dire ça comme ça, de créer des différences entre les clubs qui seraient irrécupérables. Il faut que ça vienne, ça, des clubs. C'est-à-dire que nous pouvons le proposer. Votre idée, à mon sens, elle est tout à fait recevable. On le propose, tous les clubs la valident. Et il faut que chacun joue le jeu. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait des contrats avec la rémunération de ces étrangers qui correspondent au droit français. Il faut qu'on ait, voilà. Il y a tout un tas de choses pour accompagner qui sont connexes et qui devront être menées. Et moi, je pense qu'aucun sujet n'est tabou. Tout doit être mis sur la table. C'est ça l'intérêt majeur du rugby aujourd'hui. L'intérêt général, il passe par un brainstorming général et surtout sans aucun tabou. Après, si on décide collectivement qu'il faut écarter une mesure, on l'écarte, mais au moins on la discute. On la discute. C'est ça, hein, la dynamique qu'il faut qu'on remette en avant, qu'on retrouve le sens de l'intérêt général, du travail collectif, de la réflexion collective, de l'échange, qu'on ne se voit pas toujours comme des concurrents directs, comme des adversaires. Bon, il faut qu'on soit des partenaires. Il faut que, par exemple, j'espère que le 7 avril, quand les quatre clubs qui seront en demi-finale de coupe, eh bien, ils auront un stade plein avec des supporters d'autres clubs et d'autres horizons que ceux qui sont en finale. J'espère que le printemps du 13 en Narbonne, qu'on fera le plein avec tous les trédistes. J'espère que le 29 juin à Toulouse pour les France-Angleterre, on va être capable de remplir les 7 deniers, parce que ça voudra dire qu'il y aura du monde le matin à l'Assemblée Générale, qu'on pourra échanger, qu'on pourra faire avancer notre sport. C'est cette dynamique-là que je m'évertue à remettre en place. Mais encore une fois, pour revenir à votre suggestion, elle est tout à fait recevable et c'est au collectif fédération et club de s'en emparer et de la mettre en place ou pas. Mais c'est une des solutions possibles, effectivement. Effectivement.
Alors, président, je vais mettre maintenant le doigt là où ça fait mal. Et il y a eu ce match Drôme Catalan 13 président.
Oui.
Un score énorme. Et vous savez, oui. Moi, j'ai entendu dire, c'est ça le niveau de l'élite 1. Alors, est-ce que, qu'allez-vous faire pour que ça ne se passe pas comme ça? Parce que 88 à 6, bon, ça fait mal. En plus, la semaine après, mais ça c'est autre chose. Il y a un 5 à 6 à 2 à la télévision, l'un sur l'autre. Mais ce match à Saint-Estève-Président, est-ce que vous envisagez de faire une autre formule, hein? Parce que franchement, 88 à 6, moi je vous dis, j'ai plein de gens qui me disent, c'est ça le niveau de l'élite 1. Oh, je ne savais pas quoi répondre.
Oui, ah ben, y a une chose à répondre déjà, c'est que c'est la différence aujourd'hui entre le très haut niveau et puis notre élite 1. Alors, elle n'est pas à 88 d'écart, hein? Elle est moindre.
Et vous croyez qu'il y avait les meilleurs joueurs ce jour-là,
bien sûr que non, il n'y avait pas les meilleurs joueurs. Bien sûr que non, il n'y avait pas les meilleurs joueurs. C'est bien là qu'est le problème. Nous n'avons pas pu bénéficier des meilleurs joueurs. Nous n'avons pas pu bénéficier, par exemple, des joueurs du Toulouse Olympique qui auraient pu figurer dans cette équipe et qui n'ont pas été libérés par leur club. Nous n'avons pas pu profiter des joueurs français qui évoluent en Angleterre en Super League. Nous n'avons pas pu bénéficier de certains joueurs d'élite 1 qui auraient eu leur place là et qui n'ont pas pu être libérés. Bon, alors, c'est certainement, je le prends sur moi, c'est certainement un manque de préparation collective, encore une fois, ou d'arguments pour décider les présidents. C'est vrai qu'il y a eu un petit hiatus sur un changement de date parce que lorsque nous avions prévu ce calendrier courant l'été, on ne connaissait pas encore le championnat de Super League, hein, le calendrier de Super League, et donc il est arrivé fin octobre, donc il a fallu que McNamara nous valide une date, et évidemment, il a pris le week-end suivant au week-end qui était prévu, donc ça, là aussi, a mené de la complexité. Mais il y a aussi autre chose. Moi, j'aurais bien voulu faire jouer César Rouget, par exemple, qui joue de temps en temps avec Saint-Estève et Saint-Catalan, parce qu'il n'a pas été employé par l'entraîneur des Dragons. Bon, il a été libéré. Voilà, c'est tout ça qui est impossible. Pourquoi on n'aurait pas mis dans notre équipe un ou deux Australiens qui sont en France depuis un moment?
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Alors,
mais bien sûr. Pourquoi on a fait ce constat.
Quand ils n'ont pas voulu libérer ces joueurs, pourquoi un petit peu pas montrer les dents, mais enfin, écoutez, bon, vous ne voulez pas libérer ces joueurs, il n'y a pas de match de préparation.
Oui.
Il fallait peut-être taper sur la table un petit peu et mettre une équipe mixte, il y a des étrangers, de bons joueurs en France, et ça aurait peut-être davantage aidé les Catalans et ça aurait reflété un autre niveau, peut-être le championnat d'étude. Enfin, c'est mon opinion, hein. je la partage avec moi.
Oui, mais c'est déjà pas mal. J'ai préféré, alors quand je dis nous avons préféré apprendre sur la leçon du jour. Bon, tout comme l'an dernier, on a pris deux fois 65 points contre les Anglais à Warrington, Cette année, on a pris 88 points avec les Catalans. Si jamais on n'est pas capable de revendre notre copie, ça n'est pas la peine de faire ce match. C'est le conseil est simple. Donc, ou ce match, il sert à quelque chose à tout le monde, c'est-à-dire que c'est une façon d'avoir du lien avec la Superligue qui constitue à 80% notre équipe de France A. Ou c'est une capacité aussi à diffuser des images d'un bon niveau de rugby à 13, etc., etc. Ou on estime que ça vaut pas le coup et on continue à faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, on arrête ce genre de représentation qui n'amène rien. Je vous le concède absolument. Ce 88-6 n'amène strictement rien. Voilà. Donc c'est cette question-là dont nous débattrons également avec le président. Et cette année, nous avons décidé, et on en est convenu également le 4 mars avec eux, que le calendrier serait construit en leur présence. Et donc, si nous décidons que ce match est important, eh bien, on laissera deux week-ends entre fin janvier et début février de libre, de façon comme une mini-trêve, pour pouvoir préparer ce match avec de la qualité d'entraînement, en associant les entraîneurs de club, en faisant quelque chose d'une autre dimension, mais en se donnant les chances d'avoir une production quand même davantage digne que celle que nous avons vécue cette année.
Denis.
Oui, je ne vais pas rajouter là-dessus. La question de Roger a été suffisamment claire et votre réponse précise. Mais je veux simplement dire que moi, il me semble qu'aussi il faudrait que tout joueur français qui joue en élite, quel que soit son âge, dans la mesure où il a le niveau et qu'il est sélectionnable, même si c'est un ancien joueur de Super League, eh bien, il puisse être sélectionné dans cette compétition et qu'il ne puisse pas dans cette équipe et qu'il ne puisse pas le refuser. Voilà, c'est un aparté pour certains joueurs. Je voulais aborder, président, avec vous un autre aspect, c'est l'aspect junior qui est une catégorie qui représente le premier avenir, le premier échelon qui demain va être justement va faire que ces clubs d'élite 1, d'élite 2, etc. vont pouvoir performer. Et pourtant, cette catégorie junior, est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle est un peu sinistrée? Certains clubs d'élite n'ont pas de junior. Certains viennent déclarer forfait. Il y a eu de quelques forfaits là, en Coupe de France, un autre en championnat. Bon, enfin, comment vous expliquez un peu ces difficultés que les clubs rencontrent dans cette catégorie junior? C'est un peu nouveau, alors c'est vrai, certains évoquent le Covid, etc. Bon, comment vous l'analysez? Qu'est-ce qu'il faudrait, quelles sont, entre guillemets, les solutions qu'il faudrait trouver parce que sans des équipes juniors, ça va être difficile d'avoir des joueurs français demain en senior, quoi.
C'est évident. Alors d'abord, effectivement, vous l'avez évoqué, il y a un phénomène qui nous est tombé dessus il y a 3 ans, cette pandémie qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, et pas seulement au rugby après, en termes cet engagement de la jeunesse dans des activités sportives. Et le rugby à 13 l'a pris de plein fouet parce que nous ne sommes pas une fédération avec un nombre de licenciés préconqués. Voilà. Donc nous avons subi cela. Nous sommes aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, en retour de croissance chez les U13, U15 et U17, ce qui nous permet d'envisager, je l'ai dit lors de l'Assemblée du 9 septembre, 2 ans, un retour à un étiage que nous avions connu avant le Covid. En ayant dit ça, mes amis, quand nous avons pris les rênes de l'exécutif en décembre 2020, il y avait une autorisation de faire jouer des seniors 1 en junior, en U19. C'est-à-dire que dès lors qu'ils passaient première année senior, ils pouvaient effectuer un certain nombre de matchs avec les juniors. Ça voulait déjà dire que on avait un souci d'effectifs dans ces U19, et voyez que ça fait déjà 4 ans, Alors, je vais dire, on était dans les 5 ans, hein, nous n'avons pas encore réglé le problème. Petit à petit, car se réduit, mais on peut parler des clubs, non pas de U19, je peux parler de Saint-Gaudens, par exemple, mais qui y travaillent. Ils ont des juniors nationaux, qui sont encore trop faibles pour les faire jouer en U19 élite, mais ils y travaillent. Petit à petit, ils refondent l'effectif. On parlait de Villefranche-de-Rouergue, ils ont des juniors nationaux en entente avec Cahors. Sébastien Marty, le manager sportif du club, me disait avant-hier, bon, nous, on va faire l'effort, on a recruté, on aura des juniors propres au club l'année prochaine, mais ça sera encore trop fragile pour être en élite. On voit bien que le SO Avignon, par exemple, vous en avez parlé sans le nommer, a fait un forfait dernièrement à Albi, a des problèmes pour structurer ses équipes juniors. Bon, c'est un problème qui est important, parce que effectivement, ça ne nous permet pas d'envisager l'avenir très immédiat d'élite avec un renforcement des effectifs des clubs. Et je me refuse pour autant à poursuivre cette expérience des seniors 1 en junior, parce que ça n'apporte rien, ça ne fait que masquer la misère, et ça permet aux clubs de tricher un peu avec le temps, c'est-à-dire de se donner un peu plus de temps. Donc, je pense que d'ici 2 ans, peut-être 3, mais d'ici 2 ans, ça devrait être le cas si on continue à bien travailler. Le travail qui est fait par les clubs au niveau des sections post-école de rugby, c'est-à-dire les U15 et les U17, finira par payer et finira par donner à nos U19 un peu plus d'envergure. Ceci étant dit, il y a un autre problème qui est connexe à celui-là, que je soulève moi régulièrement avec les présidents de clubs. Pour le moment, je ne suis pas entendu, mais pourtant, j'ai la conviction d'avoir raison. Alors, encore une fois, je me suis mis d'accord avec moi-même, hein, comme vous dites, mais j'ai la conviction que sacraliser comme on veut le faire et comme on veut continuer à le faire, des U19 enlevés de rideau, ça n'est plus la solution. Ça n'est plus la solution. Les jeunes, ils ont besoin d'avoir une vie à eux, où ils ont des matchs l'après-midi, où ils se déplacent pas le dimanche pour rentrer le soir à pas d'heure, ou même le samedi pour rentrer en milieu de nuit, regarder leurs copains s'épanouir dans des relations un peu plus festives et conviviales, etc., et eux être privés de ça. Ça aussi, c'est un facteur de désaveu du sport en général, hein. Pas que nous. Mais on est encore un des derniers sports à s'acharner à faire des levées de rideau. Alors j'entends que les entraîneurs d'élite ont des stagiaires en U19 ou ont des joueurs qu'ils intègrent de temps en temps, qui veulent les voir jouer. Mais je ne vois pas ce qui empêche d'aller voir jouer un jeune, de le trouver d'un niveau suffisant pour pouvoir faire des piges en élite. Voilà. Donc c'est là aussi, projetons-nous dans quelque chose d'autre pour permettre à nos jeunes de s'épanouir, de faire venir des copains, d'avoir un rythme qui est plus accessible, on va dire, à une représentation qu'à la jeunesse de l'engagement associatif. Voilà ce que je dirais.
Je peux vous dire, Président, attends, Roger, une seconde, je peux.
Oui, je
continue sur la question des juniors. Oui. Je vous dis, Président, que vous êtes pas seul avec vous-même, parce que je suis d'accord avec vous sur cette question-là.
Très bien, on est au
cette approche-là. Voilà, on est deux. Et je voulais vous apporter un élément supplémentaire. Est-ce qu'aussi il n'y a pas une difficulté qui provient du fait que, parce qu'on perd beaucoup de il me semble, mais on perd beaucoup de jeunes au moment du passage du U17 à U19, et ça correspond souvent avec le fait que nombre de, contrairement à avant, ce qui se peut faire avant, c'est que la plupart des U19 vont faire des études universitaires. Et partent donc dans les grandes villes, et beaucoup de nos clubs se trouvent dans des villes où il n'y a pas de faculté, et que donc se représente ensuite pour ces clubs ou pour les familles, en particulier pour les familles des joueurs de ces jeunes, des transports pour venir aux entraînements, des frais de transport, etc. Alors est-ce que là aussi Est-ce qu'il ne faut pas que les clubs, je ne sais pas, pour, ben, quelle est la solution, moi, je ne sais pas, mais comment faire, pour comment aider ces jeunes à s'entraîner et à venir jouer, alors à des moments peut-être qu'ils ne soient pas nécessairement en ouverture, mais à trouver des moyens pour que ces jeunes puissent revenir dans leur club plus facilement et qu'on en perde peut-être moins.
Oui, mais c'est aussi, c'est une partie du problème, évidemment. Après, quand même, quand on regarde un peu ce que nous avons été tous. J'ai fait des études, j'ai fait le professeur d'éducation physique, j'étais étudiant à 70 kilomètres de la ville dans laquelle je jouais à ce moment-là. Ben, j'allais pas m'entraîner le mercredi, mais je m'entraînais le vendredi, je jouais le dimanche. Pendant mes années d'études, ça a été ça, le régime. Et tout le monde s'en satisfaisait. Alors oui, on n'était pas dans une conception d'élite telle que nous sommes aujourd'hui. Oui, j'étais dans ce qu'on peut appeler un petit club, mais quand même qui a fait sa vie, hein, puisqu'on a joué en groupe A à l'époque, etc. Donc on est arrivé malgré tout. Il me semble que c'est une conception collective qu'il faut qu'on revoie, avec peut-être une capacité aussi à, comme je le disais tout à l'heure, avoir un peu plus de relations entre nos clubs pour pouvoir, par exemple, permettre à ces jeunes d'aller s'entraîner avec un club plus proche de sa vie d'études. Voilà, donc je dis ça un peu comme ça au pied levé, mais c'est encore une fois en échangeant, en essayant de trouver des solutions qu'on fera naître la bonne formule, j'en suis persuadé. En tout cas, il faut que nous nous y penchions parce que notre réservoir U19 est effectivement insuffisant aujourd'hui. C'est clair.
Alors, Président, le retour, il est déjà presque...
Eh oui.
Je vais vous dire une chose. Est-ce que, bon, après, vous me répondrez, si vous pouvez, un peu rapidement. Moi, j'ai l'impression que certains clubs n'ont intérêt que pour l'équipe 1 et pas assez pour les jeunes. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, il y a un sport en Rue 13 qui fait vraiment recette où la Coupe du Monde qui a été mise en valeur, c'est le 13 au fauteuil.
Oui.
Alors, où en est sur ce système-là, qui est un jeu magnifique. Quand on voit les matchs de 13 au fauteuil, c'est spectaculaire, c'est extraordinaire. Est-ce que on sent que cette Coupe du Monde a permis de créer de nouvelles équipes?
Alors, la réponse est clairement oui. Je parlais tout à l'heure du Grand Ouest. Nous avons un club fauteuil à Nantes, nous avons un club fauteuil à Saint-Lô, nous avons un club fauteuil à Cherbourg, nous avons un club fauteuil en création à, j'ai oublié le nom de la ville, dans la Manche, là où est justement notre ami Luciano. Et pour autant, on ne peut pas les mettre dans le championnat pour aller jouer à Indirac, à Saint-Jean-de-Luz, ou à Nice, qui est un club, ou à La Voulte, ou à... voilà, c'est ça la complexité. Donc aujourd'hui, nous allons faire bientôt, sous l'impulsion de Xavier Basson, qui est le président de la commission para-rugby 13, nous allons réunir l'ensemble des clubs pour voir comment... on pourrait organiser notre championnat peut-être en deux phases, avec une phase ouest et une phase est, si ça peut régler les choses ou pas, j'en sais rien, ou une phase nord, une phase sud, de façon à permettre à ces clubs de rentrer dans le championnat. En tout cas, mon job aujourd'hui par rapport au para-rugby 13, qui est le seul rugby fauteuil, hein. Celui qu'on connaît qui est olympique, ça s'appelle rugby fauteuil, mais ça n'en est pas, il n'y a aucun des fondamentaux du jeu. Ça ne disqualifie pas pour autant la performance sportive des personnes qui le pratiquent. Hein. C'est pas du tout mon propos. Mais le para-rugby 13, on retrouve tous les fondamentaux du rugby 13. Et du rugby tout court. La passe en avant, le hors-jeu, la marque telle qu'elle est, les transformations, etc. Bon. Donc c'est un sport. Dès lors qu'on le fait voir, il plaît. Donc là, nous avons un atout extraordinaire qui mérite d'être développé. Je discute depuis un an et demi avec une gros groupe de protection sociale à qui cette discipline plaît. les budgets sont engagés jusqu'à fin 2024, puisque c'est d'abord les Jeux Olympiques, ils sont investis en e-sport. Une contribution de leur part, une contribution économique, ne sera possible qu'à partir de 2025. Mais l'idée, si vous voulez, c'est qu'on arrive à prendre en charge les joueurs des équipes élites fauteuil du vendredi matin au lundi soir pour leur permettre de se déplacer et de pouvoir faire le Major Rugby auquel ils se livrent trop rarement du fait de la distance entre les villes. Voilà. Donc, si vous comprenez bien, ce que je veux dire, c'est que nous devons mettre face à ces exigences de développement une pépite que nous avons chez nous. C'est une pépite, le paralympique. Bien, pour le développer, nous avons besoin de moyens. Et ces moyens, il faut les mettre face à ce que représente ce sport qui est, je vais dire, triplement inclusif, puisqu'on peut y jouer avec des valides, avec des invalides, avec des filles, avec des garçons, avec des U19, avec des seniors. Tout ça mélangé, c'est une entrée par l'activité elle-même et non par le handicap ou par l'âge ou le genre. Et donc, c'est un sport d'avenir, c'est ce qui plaît. Maintenant, il faut que nous nous attelions à trouver un format qui permette à une compétition de haut niveau de s'engager. Vous avez vu que Canal+ avait quand même acheté les droits du magazine fabriqué par la journaliste de la BBC qui s'est appelée De Chair et d'Acier en France. Il a proposé à son antenne à une dizaine de reprises, qui a raconté l'aspect magnifique de l'aventure humaine des joueurs des équipes de France et d'Angleterre, hein, des deux. Hein. Mais ce sport porte tellement de valeur qu'il est, à mon avis, un des sports d'avenir pour lequel, quand même, le ministère nous regarde de très très près et nous accompagne beaucoup. Donc, moi, je suis très confiant sur le développement du pararugby.
Alors, président, le ratourné. Une seconde, Denis. Avant que Denis vous pose la dernière question, il faudra refaire une autre mission prochainement.
Oui, avec plaisir.
Parce qu'il y a une partie importante qui m'intéresse. C'est la partie médias. Alors, Denis, on t'écoute.
Ah ben, j'ai une petite question sur les médias à poser, justement. C'est quand même un des sujets où vous avez fait beaucoup d'efforts et où il y a quand même des réussites, hein, avec, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, il y a également des clubs en parallèle qui font des efforts, y compris en Élite 2, sur soit avec des bénévoles, soit y compris financièrement pour diffuser leurs matchs sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tout ça, oui. En parallèle. Est-ce qu'il faudrait pas que, là, est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de, peut-être qu'entre la fédération et les clubs, on règle certains problèmes de calendrier au moment des diffusions, parce que, par exemple, ce dimanche, si je ne me trompe pas, en même temps que va être diffusé sur les écrans des chaînes de télévision, le match entre Limoux et Albi, en parallèle sur YouTube, il y aura Pia Carcassonne, donc à demi-heure près, ça va se chevaucher. Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il ne faut pas, au niveau de la fédération, peut-être, alors aussi chaque club peut être un peu plus uniformisé, un peu ça, je ne sais pas. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'était, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois de ça, vous avez signé à Perpignan avec oui. Une société. Alors, j'avoue que je me souviens plus exactement le rôle de la société, mais peut-être est-ce que vous pouvez en quelques mots nous en dire plus et nous dire comment ça se passe, quelle est l'évolution positive. Voilà mes deux dernières questions pour aujourd'hui.
Voilà. Alors, effectivement, d'abord, je voudrais dire que les images sont propriété de la fédération. Quelles qu'elles soient, même si elles sont tournées par un opérateur à Pia pour Carcassonne le dimanche prochain, les images, elles appartiennent à la fédération. Nous pourrions en interdire la diffusion, par exemple. Bon. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Je ne le crois pas. Au départ, c'est ce Limoux-Albi est un match déplacé. Bon, donc on a penser que c'était une affiche digne d'être télévisée. Le champion de France qui reçoit un des prétendants, ça peut quand on a vu les résultats, les scores d'audience de Carcassonne-Albi, qui a été un superbe match avec une intensité mélodramatique, avec du jeu, avec etc. Bon, on peut penser que on s'avance vers un match de cette qualification. Nous avons fait le choix de retenir cette affiche. On aurait pu prendre le Pierre Carcassonne. Mais moi, je ne peux pas aller contre les initiatives des clubs qui veulent améliorer leur image. Parce que se diffuser, c'est améliorer son image. Pour autant, lorsqu'on dit ça, ça n'est qu'un coup d'épée dans l'eau si on pense que ça suffit. Améliorer son image, ça veut dire faire reconnaître son club, qui par ailleurs fait des choses qui s'inscrivent dans la société de la commune, dans la vie sociale de la commune. Par exemple, ça veut dire qu'on a des joueurs ou des éducateurs qui sont sur les centres de loisirs d'hébergement le mercredi après-midi, ou qui sont sur de l'animation du Silver 13 avec des groupes d'anciens qui se retrouvent pour faire de la gym, ou qui sont sur de l'animation dans le centre scolaire, ou etc. Donc et là, on diffuse, et là, on voit sur la chaîne YouTube les personnes que l'on connaît, et c'est ce maillage-là qui va nous faire grandir. Bon, si on dit on va montrer le match sur YouTube pour montrer le match sur YouTube, d'abord, on sait très bien que les habitudes aujourd'hui des spectateurs, c'est de zapper, c'est qu'on regarde pas en continu. Pour 3 qui le regardent en continu, il y en a 7 sur 10 qui regardent maximum entre 7 et 9 minutes par match. Donc, ce sont des habitudes de consommation qui sont ce qu'elles sont. Voilà, donc, moi j'ai fait le choix, nous avons fait le choix, de ne pas intervenir pour le moment dans cette diffusion des images de club à leur initiative. Par contre, cette année, nous avons lancé le ballon sonde de la multidiffusion programmée des matchs que nous visions. Pour l'année prochaine, nous aurons un calendrier de diffusion et il ne sera pas question, autant que faire se pourra, que cela soit concurrencé par des images de club. Il faudra que nous accordions sur les créneaux de diffusion. Voilà. Donc c'est clair. Mais cette année, comme nous testons cette multidiffusion, soyons magnanimes, soyons bons princes, permettons encore au club d'avoir des initiatives pour peu qu'elles servent ce cercle vertueux là de réinscrire encore une fois, comme je le disais au début de l'émission, le rugby à 13 dans la culture sportive populaire. Voilà, c'est l'enjeu bien apporté à tout le temps.
Et donc sur la société...
Denis, tu as vigné deux questions.
Non, mais j'ai posé autre question, monsieur.
Vas-y.
Monsieur le Président a oublié, là.
Oui, c'est la société Smart Group avec laquelle nous avons signé un double contrat en octobre. Le premier, c'est un contrat que nous avons reconnu la société comme commercialisateur de droits, de partenariat et de sponsoring. Bon. Et le deuxième contrat, c'est développeur média. Développeur média, c'est par leur entremise que nous avons signé un contrat avec TV5 Monde, par exemple. Donc là, ils sont dans leur rôle de nous offrir des médias qui devront, à terme, être rémunérateurs en termes de produits commerciaux, évidemment, puisque c'est aussi le nerf de la guerre, hein. Moi, je ne rêve que d'avoir de la recette de droits d'image à reverser au club, hein. J'en rêve pas toutes les nuits, mais pas loin, hein. Parce que c'est ça le but des choses aussi, hein. C'est de grandir de ce point de vue. Et de notre côté, la société Smart Group, en tant que agence de commercialisation des droits de sponsoring et de partenariat, je me suis accroché avec un de ses dirigeants, qui est le directeur de l'agence parisienne, et je lui dis, mais enfin, qu'est-ce que tu fous, on ne voit rien arriver. Mais il me dit, mais attends, mon ami, moi, je commercialise, je vends les produits que tu me donnes. Qu'est-ce que tu m'as donné comme produit? Bon, c'est là qu'on a dit, mince, mais quand même, on fait les choses à moitié. Qu'est-ce qu'on a comme produit rugby à 13? Et on s'est aperçu que, depuis toujours, on n'avait pas fait un catalogue de produits rugby à 13. Alors, par exemple, les équipes de France, par exemple, le naming du championnat d'élite 1, par exemple, les LED au bord du terrain, par exemple, les protections des poteaux, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et donc, on n'avait pas catalogué les produits que l'on pouvait mettre à la vente. Alors, nous avons fait ce travail, nous le leur avons donné, et depuis, il y a quelques recettes qui rentrent, pas pour le moment extraordinaire, pas de quoi sauter en l'air, mais quand même ça rentre, et en tout cas, ça nous permet d'avoir une approche. Et, je vais vous dire, et ça sera sans doute la phrase, le mot de conclusion, hein, ce fameux top 13 que l'on va faire renaître à la prochaine saison, c'est un partenaire qui en a émis l'idée. Un partenaire potentiel qui en a émis l'idée. Il a dit, mais éditeur, ça ne correspond pas à grand-chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui parle au public et qui les assimile, votre édite, à quelque chose qui existe déjà dans d'autres fédérations et qui est performant. Parce qu'il y a le top 13, il y a le top 12, il y a le top 5, il y en a des tops. Mais top, ça parle de vraiment de ce qui est le haut du panier, peu importe le nombre d'équipes. C'est le haut du panier. Et donc, c'est ce partenaire potentiel qui a fait cette remarque à laquelle nous avons souscrit et nous sommes en train là de marketer, comme on dit en langage commercial, ce produit top 13 pour qu'il soit lucratif l'année prochaine. Voilà. Vous savez
tout. Bon, si je peux dire, c'est peut-être plus tard, Marsbrook Savantaguer pour le dire après.
Oui, c'est ça.
Alors, Président, on va se quitter là. Je pense qu'il faudra qu'on refasse un troisième volet pour bien détailler tous les médias, parce que c'est extrêmement
intéressant. Absolument.
Bon, nous, on va passer au programme du rédacteur sur de Marquette.
Et juste, Roger, une petite question, oui. Roger, sur les réseaux sociaux, d'un auditeur qui nous demande, Eric Moine vous demande votre avis concernant la création du club Laval Mayenne 13, qui est en construction d'ailleurs, je crois.
J'en ai parlé un peu tout à l'heure, certes rapidement, mais c'est une. Alors c'est pas tout à fait Laval, hein, c'est à côté. Le club qui se crée auquel je pensais, là où travaille notre ami Luciano, c'est une très bonne chose qu'il y ait un club qui existe et qui se crée. Après, ça demande des moyens. Nous avons travaillé avec lui et puis notre directeur technique national, Jacques Plain, pour voir comment des moyens humains pouvaient être mis à sa disposition pour l'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il nous a dit, moi j'ai des demandes d'établissements scolaires qui veulent faire du rugby, ils se foutent de savoir quel rugby, etc. Ils veulent faire du rugby, et donc c'est du rugby à 13 puisqu'ils m'ont contacté, mais j'ai pas de personne qualifiée pour intervenir dans l'école aujourd'hui. Et je me prive de une cinquantaine de gamins que je pourrais avoir à l'école de rugby tout de suite. Donc, c'est aussi ça, la réalité. Nous devons mettre en formation des personnes localement, là-bas, pour accompagner le développement de ce club. Mais encore une fois, moi, je suis tout à fait favorable. C'est pas de la dépense, c'est de l'investissement de la part de la fédération. Ça payera un jour. Nous aurons des retombées de cette politique-là. Voilà, donc partout où on peut créer de la peine, il faut y aller. Il faut y aller.
Merci, Président. Je vous conseille d'écouter ce week-end Radio Marseillaise, puisque nous retransmettons plusieurs matchs. C'est là où il y a le meilleur commentateur de rugby à 13. Je me fais un petit peu de pub. Président, je vous propose on va se retrouver dans une paire de mois pour attendre me voler. Et là, bien détailler les médias, parce que pour rugby à 13, vous comprenez que c'est extrêmement important. Merci, Président. J'espère qu'on ne vous a pas trop torturé.
Absolument pas. Absolument pas. C'était un plaisir. Comme chaque fois.
Voilà. Merci, Président.
Vous êtes aussi bavard que M. Lacoste.
Non, mais c'est bien. On peut
c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien.
Moi, je suggère
merci de votre accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je suggère qu'on fasse une autre émission, mais après la finale du championnat, comme ça nous permettrait de faire un bilan complet. Évidemment, sur les médias, mais aussi sur la saison, Roger.
Absolument.
Voilà, bon,
oui.
Merci, Monsieur le Président.
Avec plaisir.
Merci,
bonsoir à tous.
Bonsoir.